pour célébrer le ressuscité, le second dimanche est dédié à la miséricorde, pour nous parler non pas tant de son aspect extérieur, mais de son cœur, de son intériorité, de la miséricorde en un mot. Il est le ressuscité, il est bien décrit symboliquement dans l'Apocalypse. Dans ce passage, où on le voit au milieu des églises, ce passage qui nous a été lu, il y a dans sa tunique blanche, sa ceinture d'or, c'est la vie transfigurée, ce sont les couleurs du ciel qui sont là. Et puis il y a ce visage resplendissant qui est toute lumière. Il est la vie qui apparaît au milieu de l'Église. Mais cette vie qui soutient l'Église a ses lois, ses exigences, et il n'est pas question d'y échapper. Il est celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Et ça, on ne pourra jamais faire l'économie de la justice, même lorsqu'on contemple la miséricorde. La miséricorde, elle nous dit que la justice n'est pas à craindre quand on ouvre son cœur à Jésus, quand on ouvre son cœur à l'amour et à la vérité, et qu'on laisse en cette vie, d'une part, et dans l'autre, éternellement, eh bien, le Seigneur le remplir, ce cœur, le façonner. C'est comme dans un échange matrimonial entre les époux. Sauf que là, c'est au niveau vraiment mystique, au sens le plus haut du terme. Il n'y a plus de sexe qui compte au niveau de l'amour surnaturel. Et ça, nous avons du mal. Nos conditionnements nous empêchent un peu, nous freinent un peu pour imaginer, pour dépasser l'expérience humaine de l'amour que nous faisons ici-bas. Mais toutes les formes d'amour sont non seulement rassemblées, synthétisées, mais complètement dépassées par cet amour surnaturel. Et il a une forme, un visage, c'est le ressuscité. Cet amour-là, nous lui donnons le doux nom de miséricorde. La résurrection, c'est la miséricorde. Ce n'est pas un événement extraordinaire, c'en est un. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut nous faire retenir au fond de notre âme. Ce qui nous fait retenir de la résurrection, c'est la miséricorde. La proposition qui nous est faite d'une vie nouvelle, voilà ce qu'est la résurrection. Échapper à la tristesse d'un monde vide de Dieu, d'un monde, quelle que soit sa beauté, si Dieu n'y est pas. Eh bien, ce monde-là est forcément étriqué, triste, lourd, et c'est inévitable. On voit les hommes qui, dans notre monde, tentent de façonner ce monde présent à leur image à eux, et leur image n'est pas celle du ressuscité, et ce monde est triste, il est sans joie profonde, il est sans fraîcheur, il est surtout sans beauté. Vous voyez, dans Faustine, sœur Faustine, est l'un des multiples témoins qui a mis en relation le mystère de la vie avec la beauté du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité est d'une beauté qui dépasse tout entendement, qui ne peut se goûter, s'appréhender qu'avec l'âme. Il n'y a rien d'humain qui puisse se comparer à lui. Et il inaugure une transfiguration des âmes pour les rendre belles à leur tour, parce que malheureusement, la chute originelle a abîmé les âmes, les a défigurées. La vieillesse est une image de cette défiguration du péché. Une image. C'est le dard de la mort, la vieillesse. On le sent bien. C'est la mort qui veut prendre sa proie et l'enserrer jusqu'à l'étouffer et l'ingérer. C'est pareil pour le péché originel. Il y a quelque chose, une usure, une entropie qui fait que la créature spirituelle perd son énergie, perd sa forme et sa beauté native, sa fraîcheur. La vie, quoi. La vie s'en va. Jésus est mort sur une croix et il est ressuscité d'entre les morts parce qu'il a voulu nous restaurer, nous réinsuffler dans notre âme une vie nouvelle, une vie renouvelée. Et la beauté est l'icône de ce renouvellement. Ensuite, Il y a cette relation entre la vie et la gratuité. Jésus ne demande rien en échange, sinon l'échange d'amour. Mais c'est tout ce qu'il demande. Mais il ne propose pas la vie, ce renouvellement merveilleux, à ceux qui le refusent. À ceux qui refusent le Père, à ceux qui refusent l'Esprit Saint. C'est impossible. Et il y a cette condition sine qua non sur laquelle beaucoup achoppent. La grâce de la lumière d'en haut. Voyez l'émerveillement de Jean à Patmos. Le ciel s'ouvre. Et c'est la lumière d'en haut qui pénètre en lui. Jésus, apparaissant à ses disciples, leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et il ne leur donne pas seulement la capacité de pardonner les péchés ou de les maintenir. Il donne à l'Église la capacité d'ouvrir les yeux de l'âme pour contempler la lumière d'en haut. Et c'est ça, le grand don de la résurrection. Vraiment, c'est un grand jour de fête. C'est, contrairement, vous voyez, cette gratuité, elle échappe tout à fait à ceux qui veulent garder leur vie, qui veulent être comme des dieux et qui, paradoxalement, tout en voulant être comme des dieux, il suffit de regarder autour de nous, donc décider du bien et du mal, de ce qui est vrai et faux, avoir sa vie dans ses mains, eh bien, ils sont prêts à se rendre esclaves de n'importe quelle politique. C'est curieux, ce paradoxe. Mais c'est le paradoxe du pécheur. Pour trouver la liberté, il n'y a que Dieu. Et dès qu'on cherche cette liberté divine, eh bien, on tombe sous l'esclavage du péché. Et on est esclave au lieu d'être un homme ou une femme libre. C'est ainsi, c'est la logique de la justice divine. Parce que nous ne sommes pas des dieux. Il suffit de regarder, mais les hommes pécheurs deviennent aveugles. Et ils ne contemplent que ce qu'ils voudraient devenir au lieu de contempler ce qu'ils sont. Le cœur du Christ, il est ouvert à tous. Quand on pense à Sœur Faustine, aux révélations qu'elle a reçues, et bien, on pense évidemment à Parole Moniale qui l'a précédée, et les révélations du Christ miséricordieux à Sœur Faustine bien sont dans le même sillage. C'est toujours le cœur de Jésus qui est le centre de cette spiritualité. Mais Jésus a voulu renouveler. Il a voulu rappeler aux hommes du XXe siècle qu'il était miséricordieux, qu'il était la seule espérance de l'humanité dans un monde qui se préparait vraiment aux ténèbres les plus épaisses historiquement parlant, en Europe en tout cas. La révélation de Dieu comme amour. Et elle, chez Sœur Faustine, elle coexiste avec la révélation, tout comme dans l'Apocalypse, juge des vivants et des morts. Et là, c'est constant, on revient encore à cette présentation morale si exigeante de l'amour. Elle exige ce minimum, c'est d'être en communion avec l'amour. Celui qui est dans l'amour de lui-même n'est pas en communion avec l'amour qui est plus grand que nous. Cet amour-là est le seul amour qui soit. Jésus, Sœur Faustine, a reçu une image même de cet amour-là. On voit Jésus ressuscité comme dans l'Apocalypse, là habillé de blanc. Et ce ressuscité, il a un visage merveilleux et il ouvre, on voit, de son cœur sortent deux rayons. Et ces rayons qui sont les eaux vives dont l'Église a besoin, dont chacune de nos âmes a besoin. L'amour est beau, l'amour est gratuit, mais l'amour est exigeant. Voilà les grandes leçons à retenir. Alors comme les apôtres, réjouissons-nous de la lumière qui nous est proposée, parce que le monde dans lequel nous vivons est bien maussade. Il est à l'image de la météo de ces jours-ci, vous voyez. La force de la vie, et l'émerveillement, c'est qu'elle est toujours victorieuse de la mort. Alors, considérons vraiment que le pardon de Dieu est toujours accessible, à condition, bien sûr, d'accueillir Dieu. Si on n'accueille pas Dieu, on ne peut rien recevoir d'en haut. Et nous n'aurons que nos faibles forces pour ramper sur le sol. Demandons, célébrons Jésus. célébrons cet amour merveilleux qui vient nous proposer une alliance. Il ne nous demande pas grand-chose. Il ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires en ce monde, de construire des tours qui rejoignent le ciel. Il ne nous demande rien de tout ça. Il nous demande d'être de la vérité, d'une part, comme il le disait à Pilate, rechercher la vérité, être attentif à la vérité. Et il nous demande d'avoir un cœur ouvert et d'accepter cette perspective de redevenir comme les enfants.